Info Club Sandwich.
Votre rendez-vous d'actualité locale, associative et culturelle
sur Radio Campus Amiens.
Salut tout le monde, vous êtes bien sur le 87.7 Radio Campus Amiens et vous écoutez Info Club Sandwich. Aujourd'hui, Thomas reçoit Fabien Doremus pour parler de son nouveau livre La Mâchoire.
Oui, bonjour Hugo et bonjour Fabien Doremus. Donc Fabien Doremus est effectivement l'auteur d'un premier roman, La Mâchoire, premier roman qui est édité aux éditions de la librairie du Labyrinthe. Et Fabien Doremus y met en scène de grandes figures scientifiques, dont Jacques Boucher de Perthes, qui fait la découverte en 1863 d'une mâchoire humaine dans une carrière de sable d'Abbeville. Pour cet ancien directeur des douanes passionné d'archéologie, c'est l'aboutissement de dizaines d'années de recherche. Il va enfin prouver au monde que l'homme fossile existe. Dans Le plus grand secret, il invite son ami, le géologue anglais Joseph Prestwich, à examiner la trouvaille. Mais à son arrivée, la mâchoire a disparu, poussant les deux savants dans une aventure inattendue. Avec La Mâchoire, Fabien Doremus signe un hommage à la littérature populaire du 19e siècle, avec son lot de rebondissements, de fausses pistes, de mystères et de personnages tantôt attachants, tantôt grossiers ou farfelus, du journaliste peu scrupuleux au vétéran mal dégrossi. Aussi court qu'il est sec, La Mâchoire est aussi un roman de vulgarisation scientifique et historique. Fabien Doremus pose bien son décor, son contexte et ses protagonistes principaux, définissant ainsi les motivations, les enjeux de Jacques Boucher de Perthes, éminent géologue, l'inventeur de la préhistoire, résidant alors à Abbeville. Justement, Fabien Doremus est originaire d'Abbeville. Il y montre aussi son attachement à cette ville, avec de nombreuses descriptions des rues, des lieux, mais aussi de l'ambiance de l'époque. La Mâchoire, sous ses airs de roman à suspense et de vulgarisation scientifique, n'oublie pas non plus d'être un témoignage social d'Abbeville du 19e siècle. L'auteur dépeint la vie de l'époque, les inégalités, la condition ouvrière via les métiers de meunier ou encore du filage de coton. Fabien Doremus agence tout cela sans que la narration et le plaisir de la lecture en pâtissent, parce qu'une fois plongé dans la mâchoire, on se révèle vite mordu, on ne la lâche pas avant la dernière page. Mais qui d'autre donc que Fabien Doremus qui était présent avec nous ici pour parler de son livre. Rebonjour Fabien Doremus.
Bonjour et puis merci de cette belle présentation.
Fabien Doremus, vous êtes d'abord mordu de géologie, d'histoire ou de littérature ?
Ma formation de base, c'est les sciences. Hein. J'ai fait de la physique, de la chimie, après j'ai fait plutôt de l'histoire des sciences et du journalisme. C'est ça mon parcours. Donc la littérature, ça vient plutôt sur le tard. C'est pas ma première idée.
Alors justement, comment passe-t-on d'études scientifiques à la publication d'un premier roman aux éditions de la librairie du Labyrinthe?
C'était pas prévu, hein. C'est un peu le hasard hein, qui a organisé les choses, puisque à la base, moi, il y a quelques années, maintenant une dizaine d'années, je travaillais avec un camarade qui était auteur de bande dessinée, qui s'appelle Ludovic Rio et qui publie aujourd'hui plusieurs bandes dessinées aux éditions d'Argo. Et on travaillait ensemble dans un journal qui s'appelait Le Télescope d'Amiens. Et on voulait continuer à travailler ensemble. Et donc je cherchais une bonne histoire pour en faire une fiction et pour travailler avec lui. C'est comme ça qu'un soir, j'écoute la radio. Et je tombe sur une émission d'archéologie qui raconte cette histoire d'une mâchoire découverte à Abbeville en 1863, donc il y a pile 160 ans. Et cette mâchoire va avoir un retentissement international, ça va bouleverser l'Académie des sciences. Et moi, étant originaire d'Abbeville, je me suis dit, mince, j'ai jamais entendu parler de cette histoire. Ça ferait une bonne base de fiction. Et donc je commence à écrire ce qui sera ce qu'on appellerait un séquencier, c'est-à-dire un ensemble de séquences qui pourrait être la base d'un scénario, tout ça étant destiné à une bande dessinée dans ma tête. Dans ma tête, c'est ça. Et puis je mets du temps parce que je me documente beaucoup, ça prend beaucoup beaucoup de temps. Et puis au moment où j'ai fini un peu ce premier gros travail, eh bien mon camarade illustrateur n'est plus disponible parce qu'il a commencé à travailler avec Dargo justement dans des projets à long terme. Et donc je me dis, bon, cette histoire-là, j'aimerais bien quand même qu'elle existe. Alors j'ai tenté de commencer de l'écrire et ça m'a pris du temps, j'ai tâtonné longtemps. Et puis au fil du temps, bah, ça a donné ce livre qui, donc là, ça a pris plusieurs années. Et je suis très content d'avoir pu aboutir à la fin de cette histoire.
Alors, bien sûr, ce sont des personnages existants, Jacques Boucher de Perthes, Joseph Prestwich et d'autres aussi qui apparaissent dans le roman. Quelle liberté vous vous êtes permis par rapport à cette histoire ? Quelle est la part de fiction et la part de documentaire ?
Les deux sont très très fortement entremêlés. J'ai commencé par me documenter, donc pour avoir une base. Je voulais qu'on comprenne vraiment les enjeux de l'époque, et notamment les enjeux scientifiques. Et donc pour ça, il fallait que je sois très précis dans les informations que j'allais donner tout au long de ce roman, pour bien faire comprendre, pour mettre en scène les idées qui étaient en conflit à l'époque. Et après, à partir de là, tout était permis de faire arriver des personnages, quel que soit leur parcours que j'inventais, quel que soit leur état d'esprit, quel que soit leur physique, tout était possible. Mais les deux sont vraiment très superposés, très imbriqués, et je ne pourrais pas donner la dose de vérité et la dose de fiction, les deux sont intimement mêlés.
Alors, pour les auditrices et les auditeurs qui ne connaissent pas forcément... que pouvez-vous nous dire sur Jacques Boucher de Perthes et Joseph Prestwich ?
Alors, Jacques Boucher de Perthes, alors on connaît un peu son nom parce qu'il y a des rues qui portent son nom, il y a un lycée à Abbeville, il y a le grand lycée public à Abbeville, où j'étais d'ailleurs moi, à l'époque. C'était quelqu'un qui est issu de l'aristocratie française, qui est douanier, qui est directeur des douanes. Il a fait toute sa carrière dans les douanes, il a connu... en début de carrière, Napoléon Ier, il a connu beaucoup de monde. Il y a eu plusieurs... le 19e siècle, c'est un siècle un peu compliqué. Il y a le Premier Empire, après il y a le retour de la monarchie, il y a la République, la Deuxième République qui vient, puis après il y a un coup d'État, puis c'est Napoléon III, puis il y a plein de choses. Et lui, il a connu tout ça. Et là, on est en 1863, il est retraité. Mais depuis pas mal d'années, sa passion, c'est d'aller trouver des silex dans les carrières de sable ou autres carrières d'Abbeville et des alentours. Il est allé à Amiens aussi pour trouver des silex parce qu'il est convaincu que dans ces carrières, on trouve l'œuvre d'un homme qui n'existe plus sur Terre. Or, cet homme-là, cet homme qu'on appelle préhistorique aujourd'hui, lui, il l'appelait antédiluvien, donc l'homme d'avant le déluge, cet homme-là, il est refusé à la fois par l'Académie des sciences. L'Académie des sciences française dit non, non, cet homme-là n'a jamais existé, il n'y a jamais eu d'homme préhistorique. Évidemment, bien sûr, la religion dit bien sûr que non, il n'y a pas eu d'homme antédiluvien non plus. Et donc on est dans cette situation-là et cette mâchoire va tout bouleverser. Joseph Prestwich, c'est un marchand de vin. Il a hérité, il habite à Londres, c'est un Anglais. Il a hérité de cette boutique, ce commerce de vin à Londres. Et il est aussi géologue et un éminent géologue puisqu'il est à la Société Royale de Londres. Il est membre de cette Société Royale et il est très au courant des découvertes qui se sont faites dans la Somme à cette époque-là. Donc là, mon histoire se passe en 1863, mais il a déjà mis les pieds à Amiens et à Abbeville 4 ans auparavant. Il a déjà fouillé les terrains à cette époque-là et il est devenu un allié objectif de Jacques Boucher de Perthes dans sa quête pour convaincre l'Académie des sciences françaises que l'homme préhistorique existe.
Vous parliez de religion là à l'instant là dans votre réponse. Justement, dans votre roman, la religion n'occupe pas une place aussi tranchée. Il y a un personnage de prêtre qui lui a un discours plutôt plus nuancé par rapport aux découvertes que peuvent avoir Jacques Boucher de Perthes et Joseph Prestwich.
Absolument, parce que en me documentant, je me suis rendu compte que les choses étaient nuancées, très nuancées à cette époque-là. Il y avait des curés qui faisaient des fouilles archéologiques. Et Jacques Boucher de Perthes, dans sa recherche de l'homme préhistorique, il est aussi motivé par des questions spirituelles. C'est un chrétien pratiquant, croyant. Il n'y a pas une opposition d'un côté la science, de l'autre côté la religion. C'est beaucoup plus compliqué que ça, beaucoup plus nuancé que ça. Et ça génère aussi des conflits, bien sûr, entre les gens, mais aussi dans la tête. Dans certaines personnes qui essayent de concevoir à la fois d'allier leur foi et les connaissances qu'ils acquièrent au fur et à mesure des découvertes. Et ça donne des choses très intéressantes.
Alors, Le roman est vu du point de vue de Joseph Prestwich. Pourquoi ce choix ?
Parce que... pour deux raisons. D'abord, je pense que c'est dans le roman le personnage le plus... C'est celui qui a un peu le plus la tête sur les épaules, donc c'est plus facile pour un lecteur de se mettre de suivre les pas du personnage le plus rationnel. Et puis aussi, c'est le personnage qui, dès les premières lignes du roman, il débarque, il vient de prendre le train, il arrive à Abbeville. Et là, ça, c'est les premières lignes. Et donc, on débarque avec lui dans l'histoire. Et ça fait que, on le suit du début jusqu'à la fin.
Et on sent, vous dites que vous avez une formation scientifique, mais on sent beaucoup un grand intérêt pour l'histoire. Hein, c'est un roman historique, oui. Avec notamment un flashback, un moment sur la guerre de 1800, du début du...
1813.
1813, ouais. Et j'y vois aussi quelque part une influence à la Victor Hugo, parce que Victor Hugo aimait bien aussi imbriquer dans ses romans des retours sur l'histoire. Alors, que pouvez-vous nous dire sur ce rapport à l'histoire et sur vos influences littéraires ?
Sur les influences littéraires, je sais pas, parce que effectivement, moi, ce que j'aime beaucoup les romans historiques, parce que ce sont des romans dans lesquels on peut apprendre des choses de l'histoire et on peut tenter à travers des... En découvrant les actions et les sentiments de personnages fictifs, on peut essayer de comprendre l'humeur de l'époque. En tout cas, souvent, ce sont ce que les auteurs essayent de faire. Alors, bien sûr, c'est toujours il y a toujours des biais, mais en tout cas, on sent un petit peu l'humeur de l'époque. Moi, j'avais dans cette histoire, effectivement, il y a un flashback sur la bataille, sur une bataille de 1813, une bataille napoléonienne qui est une débâcle totale pour Napoléon, parce que là, vraiment, c'est difficile d'en parler sans trop en dire de ce personnage qui est un vieux chirurgien de l'armée de la grande armée qui a mal vécu ses défaites et la chute de Napoléon. Et ce que je trouvais intéressant avec ce personnage, c'est que qu'il reste que ce qui s'est passé bien des années avant, ce qui s'est passé 50 ans avant, va avoir une influence sur le cours de ce qui se passe en cette année 1863.
C'est aussi un roman très ancré dans le social. Hein, on a vraiment l'impression de visiter Abbeville en lisant votre livre. Quelle a été la recherche que vous avez faite ? Comment cela s'est passé ?
J'ai fait les recherches, elles sont un peu multiples. À la fois, je me suis basé sur des plans de l'époque pour pouvoir voir si les personnages allaient dans telle direction, quelle rue on allait croiser. Est-ce que là il y avait encore un bras de la Somme ? Est-ce que il y avait un pont ? Est-ce qu'il y avait tout ça ? Donc, est-ce qu'on était dans un quartier riche, un quartier pauvre ? Est-ce qu'on était ça ? J'avais besoin de cette documentation là pour que rien que pour moi ça ait un sens, que je dise pas n'importe quoi sur les lieux que je faisais visiter aux lecteurs. Et après, c'est en lisant aussi un livre d'histoire locale qui expliquait bien que la population de l'époque était très cloisonnée, c'est-à-dire qu'il y avait les aristocrates d'un côté, les bourgeois de l'autre côté, les ouvriers de l'autre côté, les paysans de l'autre côté, et globalement ce sont des mondes qui ne se parlaient pas et qui étaient, on est aussi au 19e siècle, un siècle qui est extrêmement conflictuel, où le capitalisme français est extrêmement brutal, peut-être l'un des plus brutals d'Europe, et je voulais qu'il y ait une part de cette conflictualité-là qui soit retransmise dans le roman. C'est la raison pour laquelle aussi certains personnages, y compris Boucher de Perthes, parfois il est malmené par d'autres personnages, parce qu'il y a des conflits de classe qui existent et qui sont forts et que je ne voulais pas occulter.
Et pourtant, vous ne jugez aucun des personnages du livre, on a l'impression. On retrouve d'ailleurs, maintenant que vous l'avez dit, on retrouve ce côté un petit peu BD aussi, par rapport à la façon dont vous personnifiez vos personnages.
Peut-être, mais effectivement, j'essaye de pas je voulais pas juger les personnages, et moi j'ai trouvé du bon et du moins bon dans tous les personnages que j'ai voulu mettre en avant. Je pense que ça c'est juste une volonté personnelle de montrer de pas faire quelque chose de caricatural et de pas de montrer la complexité des choses, et aussi de montrer que le rapport, là on a cette mâchoire qui a disparu. Il y a deux personnages qui sont donc Boucher de Perte et Prestwitch qui vont essayer de la retrouver. Elle est où cette fichue mâchoire? Mais après, les autres personnages, peut-être qu'ils ont des autres intérêts là-dedans. Peut-être qu'ils n'ont pas forcément, les autres personnages qu'ils vont croiser, ils ne vont pas forcément avoir intérêt à aller dans leur sens pour aller retrouver cette mâchoire. Peut-être qu'ils s'en fichent totalement, qu'ils ont autre chose à faire, ils ont besoin de manger, ils ont vraiment autre chose à faire qu'à d'aller chercher un os qui serait perdu, dont ils se fichent totalement. C'était important pour moi, ouais, qu'il n'y ait pas, en tout cas, de caricature et de bons et de méchants. Et c'est ça que je trouvais intéressant dans cette manière d'organiser la rencontre entre les personnages. Les conditions matérielles des uns et des autres influent sur leur comportement, et c'est ça aussi que je voulais montrer.
Fabien Doramus, merci.
Merci à vous.
Je rappelle que vous êtes l'auteur de La Mâchoire, un premier roman publié aux éditions de la Librairie du Labyrinthe. Et si vous souhaitez continuer cet entretien de façon plus ou moins informelle avec Fabien Doramus, vous pouvez le rencontrer lors de dédicaces qui sont prévues, notamment le vendredi 16 juin de 17h à 19h à la Librairie du Labyrinthe, 37 rue du Hockey. Puis le mardi 20 juin à 18h à la Librairie Martel. Bon, je ne rappelle pas où elle se situe. Et enfin, le vendredi 30 juin de 17h à 19h à la Librairie Studio Livre à Abbeville.